La pandémie de coronavirus, les émeutes violentes, les incendies, les guerres et les catastrophes naturelles ont amené beaucoup de gens à considérer 2020 comme une année à oublier. Les conséquences de cette pandémie ont affecté les économies du monde entier et empiré les conditions difficiles dans les pays les plus pauvres. Les mesures visant à contrer la pandémie comprenaient des quarantaines et dans certains cas, des mois de confinement. Certaines autorités ont même imposé des couvre-feux stricts, confinant les individus chez eux pendant de longues durées. Mais l'un des effets les plus néfastes sur de nombreuses personnes a été le manque de socialisation en personne, ce qui a provoqué une grande solitude pour beaucoup. La solitude a toujours été un problème social, mais le problème est devenu si grave au Japon que le gouvernement a mandaté un ministère de la solitude. Le Courrier international rapporte « Afin de limiter le nombre de suicides sur fond de pandémie, le Premier ministre japonais a nommé un ministre chargé de la lutte contre la solitude et l'isolement. » La solitude est-elle l'un de vos problèmes? Si oui, vous pouvez résoudre ce problème, avoir de l'espérance et connaître la joie, le bonheur et le contentement. La Bible nous offre de multiples solutions. L'une des meilleures solutions à la solitude est l'appui d'un ami fidèle. Vous pouvez connaître le chemin de l'amour véritable et la paix. Et il vous faut savoir qui peut être votre meilleur ami. Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos téléspectateurs du monde entier. Nous avons tous besoin d'amis. Les interdictions nationales dues au coronavirus ont entravé la socialisation et la convivialité normale. La pandémie de coronavirus a poussé de nombreux gouvernements à fermer littéralement des villes, des états, des provinces et des nations entières. En avril 2020, la BBC News publia un rapport intitulé « Coronavirus, le confinement du monde en cartes et en graphiques ». Le rapport décrit « Comment le monde s'est arrêté ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mesures adoptées pour faire face au coronavirus dans le monde ont été très variées. En Colombie, les jours où vous êtes autorisé à sortir de chez vous dépendent du numéro de votre carte d'identité nationale. En Serbie, une heure désignée pour promener les chiens a été établie. Et au Bélarus, le président est allé à l'encontre de l'avis médical recommandant la vodka et les saunas comme moyen de rester en sécurité. Certaines des approches les plus courantes ont vu les gouvernements émettre des recommandations sur la distanciation physique pour une partie ou l'ensemble du pays. Tandis que d'autres ont agi pour restreindre tous les déplacements internes non essentiels. Cette dernière mesure est souvent appelée le confinement. La BBC News a indiqué qu'à partir d'avril 2020, plus de 70 pays avaient établi des mesures de confinement à l'échelle nationale, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les restrictions dans certaines régions ont provoqué un isolement strict affectant la santé mentale de nombreuses personnes. Le Japon, confronté à une augmentation sans précédent du nombre de décès et de suicides en 2020, année de la pandémie, a mis en place une solution radicale pour lutter contre la solitude. Il a nommé un ministère de la solitude. Le Courrier international rapporte « Afin de limiter le nombre de suicides sur fond de pandémie, le Premier ministre japonais a nommé un ministre chargé de la lutte contre la solitude et l'isolement. » Dans l'émission d'aujourd'hui, nous analyserons des principes de l'amitié et d'exemples bibliques d'amitié fidèle et d'amitié infidèle. Nous parlerons également de l'impressionnante révélation biblique au sujet de celui qui peut être notre plus grand ami. Avant de devenir roi de l'Israël antique, David fut oint par le prophète Samuel pour succéder au roi Saül. Vous pouvez lire cette histoire dans le 16e chapitre du premier livre des rois. Beaucoup d'entre vous connaissent les récits de la victoire de David contre le géant Goliath et de ses victoires militaires ultérieures. Le roi Saül devint jaloux de David et il essaya de le tuer à deux reprises. Mais le fils de Saül, Jonathan, qui normalement aurait dû lui succéder sur le trône, devint le meilleur ami de David. Dans 1 Samuel chapitre 20, Jonathan affirme à David qu'il fera tout ce qu'il peut pour le protéger contre la colère de Saül et promet son amitié à David. 1 Samuel 20 au verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ce rare exemple de fidélité, d'amitié et d'affection s'inscrit dans le contexte d'une bénédiction divine. Souvenez-vous de la déclaration remarquable dans Actes 13 au verset 22 au sujet du caractère de David. « Puis l'ayant, Dieu, rejeté le roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Pourtant, le roi David savait que son amitié la plus proche était avec Dieu, qu'il avait béni et délivré au cours de nombreuses épreuves. Lorsqu'il fut trahi par son vieil ami Achitophel, David écrivit dans le psaume 55 au verset 17 « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Mes amis, vous et moi pouvons avoir cette même relation de proximité avec Dieu. Comme il nous est dit dans Jacques 4, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques mentionne aussi que le patriarche Abraham crut à Dieu et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Qui est votre ami le plus proche? Au fil des ans, j'ai eu de nombreux bons amis. Mais qui est mon meilleur ami? Dieu m'a béni avec une formidable épouse et nous sommes mariés depuis plus de 57 ans. Mais quel élément nous a rapprochés? Nous venions d'un milieu similaire en termes de culture et d'éducation. Mais ce qui a cimenté notre amitié et notre amour est le mode de vie que Dieu nous a appelés à mener. Il s'agit du mode de vie dont nous parlons dans les émissions du Monde Demain. C'est la voie du vrai christianisme. Il existe des contrefaçons de christianisme qui, franchement, ont rebuté certaines personnes qui auraient pu être intéressées par le christianisme biblique. J'espère que vous avez regardé notre émission du Monde Demain intitulée « Le christianisme de la Bible ». Où pouvez-vous trouver des amis vrais et fidèles ? Vous pouvez les trouver dans une congrégation composée de véritables chrétiens qui suivent le véritable Jésus-Christ de la Bible. Fair Senna, un de nos auteurs pour la revue du Monde de Demain, nous donne cette perspective dans son article paru dans la série « Pour les familles aujourd'hui » et qui s'intitule « Briser le cycle de la solitude ». Qu'est-ce que la solitude ? Il n'y a pas de réponse simple, elle peut être causée par un grand nombre de facteurs. Certains ressentent que personne ne partage leurs valeurs. D'autres qu'ils n'ont personne avec qui partager leur vie. D'autres encore que personne ne se préoccupe d'eux. Ces sentiments peuvent conduire à l'isolement et à l'aliénation, ainsi qu'à une profonde tristesse, voire l'abattement, rendant la vie ordinaire bien plus douloureuse que leur entourage ne peut l'imaginer. Mes amis, nous avons tous besoin d'amis qui se soucient des autres. Et il est essentiel de pratiquer les valeurs bibliques qui produisent des relations empreintes d'amour. Et même si ce n'est pas facile quand on se sent seul, nous devons démontrer notre amour pour notre prochain et tendre la main aux autres. Monsieur Senna donne ce conseil. Allez vers les autres. D'autres personnes ont les mêmes centres d'intérêt que vous ou croient aux mêmes choses que vous. Cela peut être difficile au début, mais faire l'effort de rencontrer une de ces personnes changera votre vie. Allez vers ceux qui partagent vos centres d'intérêt et votre solitude cessera rapidement. Une des meilleures façons de briser la solitude est de réaliser qu'il y a d'autres personnes solitaires et que vous pourriez être en mesure de les aider. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide? Il peut s'agir de choses simples telles que tenir compagnie à une personne âgée ou bien aider une nièce ou un neveu à jouer au ballon. Faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre fera aussi une grande différence dans votre propre vie. Oui, vous pouvez aider les autres. Priez et demandez à Dieu de vous aider à aimer votre prochain. C'est le second plus grand commandement que Dieu nous donne. Vous pouvez le lire dans Marc 12 au verset 31. La plupart des gens connaissent la règle d'or, mais combien la mettent en pratique en tant que mode de vie? Jésus déclara dans Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Monsieur Ron McNair, un de nos présentateurs du Monde de Demain, a écrit un article inspirant intitulé « Quelqu'un à qui parler ». Il figure dans l'édition de janvier-février 2020 de la revue Le Monde de Demain. Vous pouvez lire cet article sur notre site mondedemain.org. Il y donne 5 principes permettant de vaincre la solitude. Nous n'avons pas le temps de tous les mentionner, je vais donc me contenter de mentionner le 5e principe ici. Mais je vous invite à vous rendre sur le site mondedemain.org et à lire cet article en entier par vous-même. Nous discutons de l'importance des amis. M. McNair nous rappelle un principe essentiel. Passer du temps avec l'ami le plus important. Avant sa crucifixion, Jésus-Christ a dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. » Jean 15, verset 15. Quelle déclaration formidable de la part du Sauveur de l'humanité! Le Sauveur du monde, le Messie, Jésus de Nazareth, paya l'amende de nos péchés en versant son sang pour vous et moi. L'amour de Dieu est éternel. Dieu est amour comme il nous est dit dans 1 Jean 4, versets 8 et 16. Cet amour facilite une profonde amitié avec ceux qui sont prêts à vivre selon le mode de vie de Dieu et à suivre l'exemple de notre Sauveur. Comment pouvons-nous exercer la véritable amitié? Voyons l'exemple du patriarche Job et de ses trois amis. Afin d'éprouver Job, Dieu permit à Satan de lui infliger une grande souffrance. Bien que les amis de Job se trompèrent dans leur jugement à son égard, notez la volonté inhabituelle qu'ils montrèrent à partager sa souffrance. Remarquez le temps qu'ils ont passé avec lui en silence. Job 2, verset 13. Ils, les trois amis de Job, se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Auriez-vous la compassion et la patience de vous asseoir avec un ami pendant 7 jours sans parler? C'est un dévouement authentique. Le livre des Proverbes nous donne aussi des principes importants concernant l'amitié. Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Beaucoup font l'erreur de compromettre leur caractère et leurs valeurs juste pour avoir un ami. Si vous avez un ami fidèle, vous resterez ferme dans les principes divins et vous ne ferez jamais de compromis. Proverbe 17 au verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Un ami fidèle ne divulguera pas les faiblesses des autres, mais il essaiera de les aider à vaincre ce défaut de caractère. Proverbe 17 au verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ou comme le traduit la version Darby, l'ami aime en tout temps, et un frère aîné pour la détresse. Tandis que nous pratiquons l'amitié, nous apprenons qui est le plus grand ami de tous. Qui est-il? Il est celui qui vous aime et qui a donné sa vie pour les péchés du monde, pour vos péchés et les miens. Oui, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, est votre meilleur ami. Nous devrions donc connaître le véritable Jésus-Christ de la Bible. L'apôtre Paul nous a prévenu qu'il existe de faux Jésus. Reportez-vous à 2 Corinthiens 11, au verset 3. Les Corinthiens furent séduits par des personnes qui semblaient religieuses. Paul les mit en garde dans 2 Corinthiens 11, au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens toléraient un autre Jésus. Aussi choquant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes acceptent un faux Jésus et non le Jésus de la Bible. Mes amis, quel Jésus suivez-vous? Un roi? Un faible qui erre dans le désert? Pouvez-vous vraiment connaître le vrai Jésus tel qu'il était dans la chair? Et pouvez-vous vraiment le connaître tel qu'il est à présent, le Fils de Dieu glorifié à la droite de Dieu le Père dans les cieux? Oui, vous le pouvez. Jean 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oui, votre meilleur ami devrait être votre Sauveur, le Messie, Jésus de Nazareth. Mais remarquez qu'il a formulé cette condition dans Jean 15 au verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Mes amis, non seulement vous pouvez vaincre la solitude, mais vous pouvez trouver le chemin de la véritable vie, du bonheur et de l'amitié. Mais vous devez vous assurer de connaître le vrai Jésus de la Bible. Il existe de nombreuses différences entre le Jésus que la plupart des gens imaginent et le Jésus de la Bible. Nous avons abordé ces points dans des émissions précédentes, mais laissez-moi vous en mentionner quelques-uns. Le vrai Jésus de la Bible, numéro 1, observa le sabbat du septième jour et non le dimanche. Il est le maître du sabbat comme il le déclare dans Marc 2 au verset 28. 2. Jésus naquit à l'automne, aux environs de la fête des trompettes, en septembre ou octobre, et non le 25 décembre. Il y avait des bergers qui dormaient encore dans les pâturages, Luc 2 verset 8, en automne, pas en hiver. Faites votre propre recherche afin de découvrir quels anniversaires étaient vraiment célébrés le 25 décembre. 3. Jésus enseigna que nous devons observer les 10 commandements, contrairement aux faux enseignements dispensés au nom de Jésus. Lisez Matthieu 19 au verset 17. 4. Jésus observa les fêtes et les jours saints annuels bibliques, pas des fêtes païennes affublées de noms chrétiens. Notez dans Jean 7 qu'il observait la fête des tabernacles, par exemple. Chers téléspectateurs, je vous encourage vivement de lire le Nouveau Testament avec une toute nouvelle perspective. Lisez ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit à son sujet. Vous devez étudier cela et connaître le vrai Jésus de la Bible. Vous découvrirez qu'il est bien différent des images traditionnelles qui le représentent à travers le monde. Oui, le vrai Christ de la Bible est vivant aujourd'hui. Mais où se trouve-t-il? Que fait-il? Où se trouve Jésus? Il est au ciel, à la droite du trône de Dieu. Vous pouvez lire au sujet de ce trône glorieux dans Apocalypse chapitre 4. Et vous pouvez lire au sujet de l'apparence glorieuse de Jésus, rayonnante et puissante, dans Apocalypse 1, versets 12 à 16. Oui, le Christ est monté au ciel. Et qui fait-il? Le livre des Hébreux est appelé le livre du sacerdoce. Le vrai Jésus de la Bible est appelé notre grand souverain sacrificateur. Jésus est capable de compatir à nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'il a souffert dans la chair. Il connaît la douleur, il connaît la trahison et il connaît les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Comment le savons-nous? Reportez-vous au livre des Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15. Mes amis, vous avez un grand souverain sacrificateur dans le ciel qui vous connaît et qui intercède pour vous. Lisez ceci dans Hébreux 4 au verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lisez ces versets encourageants, Hébreux 7 au verset 24. Mais lui, Christ en tant que notre souverain sacrificateur, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela, écoutez ceci, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Oui, le véritable Jésus de la Bible vit toujours pour intercéder en votre faveur au sujet de vos péchés et de vos problèmes. Et il accomplit son œuvre ici-bas en ce moment même, en préparant la voie pour son second avènement. Il ordonna à son Église de prêcher le véritable évangile. Vous avez entendu cet évangile dans cette émission, mes amis. Le même évangile que Jésus a prêché, l'évangile de l'avènement du royaume de Dieu. Vous pouvez le lire dans Marc 1, versets 14 et 15. Jésus a également prophétisé que cet évangile serait prêché à la fin de cette ère. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Le véritable Jésus de la Bible guide activement ses vrais serviteurs dans l'accomplissement de la grande mission, comme il le promit dans le dernier verset de Matthieu 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mes amis, dans quelle mesure connaissez-vous le véritable Jésus de la Bible? Thomas le sceptique s'est exclamé que Jésus était mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20 au verset 28. Le livre des Hébreux révèle que Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Hébreux 4 au verset 14. Il est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs dans Apocalypse 19 au verset 16. Dans Ésaïe 9 au verset 5, le Messie, Jésus de Nazareth, est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Rappelez-vous comment Jean-Baptiste décrivit Jésus. Il dit aux foules qui le suivaient « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Jésus est aussi le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Mes amis, vous pouvez effectuer des recherches dans des dictionnaires et commentaires bibliques et trouver beaucoup d'autres titres et noms merveilleux pour le Jésus de la Bible. Maintenant, regardons une dernière description dans le quatrième chapitre de Jean. Jésus révéla à la Samaritaine au puits une information que seul le Messie pouvait lui donner. Puis elle parla de Jésus à toute la communauté. Ils exhortèrent Jésus à rester avec eux. Après avoir écouté Jésus, ils arrivèrent à la conclusion et à la réalité que le monde entier connaîtra bientôt. Jean 4 au verset 42. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Mes amis, qui est Jésus ? Il est le sauveur du monde. Nous lisons dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Messie, Jésus de Nazareth, est vivant. Il se prépare maintenant à revenir sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce même Jésus veut devenir votre meilleur ami. Mes amis, nous devrions tous prier comme Jésus nous l'enseigna dans Matthieu 6 au verset 10, « Que ton règne vienne ». Le royaume de Dieu va s'établir sur cette terre. Le roi des rois et prince de la paix transformera ce monde charnel, égoïste et belliqueux en un millénaire de paix et de prospérité. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais êtes-vous prêts ? Souvenez-vous que Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Mes amis, si vous avez étudié le baptême biblique et si vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous vous êtes repenti et avez accepté le sacrifice du Christ, son sang versé pour la rémission de vos péchés, et si vous avez accepté son autorité sur votre vie, nous vous invitons à prendre contact avec l'un de nos ministres. Nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos émissions du Monde de Demain. Et si vous voulez recevoir un exemplaire gratuit de notre brochure « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?», cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.